Bonsoir Denis Grosdanovitch.
Bonsoir.
Bienvenue à la librairie Mola. Nous sommes ravis de vous accueillir. Après vous être attaqué, entre autres, à la désinvolture, avec Petit Étrait de désinvolture, paru en 2002, à l'éternel féminin, avec Bref aperçu sur l'éternel féminin, paru en 2006, à la mécanique gestuelle et spirituelle, avec De l'art de prendre la balle au bon, sorti en 2007, voici que vous vous attaquez au hasard. Alors, le hasard, vaste sujet, évidemment. On aura l'occasion de parler autour de ce terme. Alors, pour essayer de le définir, je crois que vous empruntez un proverbe arabe qui dit « Le hasard est l'ombre de Dieu ». Est-ce que vous pourriez développer, expliquer un petit peu ce proverbe ?
Oui, bien sûr. D'une certaine façon, c'est un peu une plaisanterie parce que en réalité... le Dieu que je désigne là n'est pas le Dieu chrétien d'une façon générale. Je veux, disons, désigner ce que moi j'appellerais plutôt le sacré. Donc certains l'appellent le Tao, ou l'énergie qui mène le monde, ou bien le Zen, ou bien, voilà, différentes manières de désigner. Cette force, ou plutôt, moi j'aurais tendance à dire ces forces qui mènent le monde d'une manière sous-jacente. Et c'est ce que j'ai essayé de désigner par le hasard dans ce livre. Il me semble que le monde est gouverné d'une façon tout à fait différente de la façon dont on essaye à tout prix de nous le faire entrer dans la tête dans les écoles. Et malheureusement, nous avons été si bien formatés par ce que j'appelle le cartésianisme que c'est tout juste si nous pouvons l'apercevoir. Car nous sommes complètement conformisés par cette façon de voir. Nous avons été tellement bien éduqués, et Dieu sait qu'en France, on l'est de façon très coercitive, à mon avis, dans une certaine logique. Et cette certaine logique, selon moi, elle nous empêche d'apercevoir ce qui est réellement essentiel, ce qui est réellement important, et bien au contraire, donc ce livre est un livre de combat, nous enferme dans une logique qui, à mon avis, c'est pour ça que je parle beaucoup de la technoscience et du technocratisme dans ce livre, nous emmène et nous enferme dans un monde qui, à mon avis, est un monde faux, artificiel, mais qui est devenu une sorte de réalité pour nous, mais qui maintenant, malheureusement, devient incroyablement dommageable, destructeur. Et donc, à travers le hasard, j'ai voulu, puisque dans ce livre, j'accumule énormément de petites anecdotes, de petits faits anodins, ce qu'on appelle ordinairement des coïncidences, des choses fortuites, impromptues, qui nous viennent comme ça, et on se demande comment c'est possible, puisque ça semble tellement étonnant que ces choses-là se produisent avec... au moment précis, de manière aussi opportune. Et on se dit, oui, ça n'a pas d'importance, parce qu'on ne veut absolument pas y croire, on nous a appris à ne pas y croire. Donc, toutes ces petites choses qui font brèche dans cette logique avec laquelle nous avons été formatés. C'est un peu ça que je désigne par le hasard. Alors, pour être un peu moins abstrait, je vais raconter une des histoires que je raconte dans le livre. Alors, je tiens à dire aussi que j'avais rencontré, ce que j'indique aussi dans le livre, cette formulation qui était faite dans un livre de Cocteau, de Jean Cocteau, qui s'appelle Opium, où il explique qu'à son avis, ce qu'on appelle justement le paranormal et le surnaturel, puisque ce livre flirte un peu avec ces notions, de façon très, très, très tempérée, parce que je voudrais surtout pas...
Oui, il y a un certain scepticisme quand même
oui,
de votre part.
Grand scepticisme. Hein. je déteste l'ésotérisme et l'occultisme, vous voyez, mais néanmoins, j'estime que, du fait même que ces gens-là, disons, l'interprète d'une façon qui, à mon avis, est fausse. Voilà. Mais néanmoins, la science aussi habituelle, à mon avis, l'interprète d'une manière fausse. Donc j'aimerais proposer une nouvelle manière d'interpréter ces choses-là. Alors par exemple, voilà, c'est une chose qui paraît insignifiante, mais pourtant pour moi, ça ne peut pas tout à fait être un hasard. Donc j'ai 8 ans, et donc J'ai 8 ans et on a été expulsé de la maison qu'on avait en bord de Seine avec mes parents. Et après avoir un peu galéré, mes parents ont fini par trouver un nouvel appartement dans une nouvelle cité qui vient de s'édifier dans les Yvelines, là, près de Paris. Et ce jour-là, mon père, qui était très content de l'emménagement dans ce nouvel appartement tout frais repeint, vient me chercher à l'école, demande à la maîtresse s'il peut me prendre pour le temps de la cantine. Et il m'emmène dans l'appartement totalement désert. Il n'y avait même pas de siège, donc on s'assied par terre. Et puis, il avait préparé un petit pique-nique, du jambon, des œufs durs, et puis on pique-nique. Et puis, à la fin de ce petit repas improvisé, mon père, qui aimait beaucoup ce genre de petite mécanique, subrepticement, il met en marche, au moment où il m'avait offert un flan à la vanille, qu'il savait que j'adorais, il met en marche une petite boîte à musique, avec ce petit zinzin musical et grelet, cette petite musique se met en marche. Et je trouve ça merveilleux, parce qu'il l'avait un peu caché, donc je ne savais pas ce que c'était, alors je lui demande ce que c'est, et puis finalement, il me monte la boîte à musique, et bon, il est très content de mon étonnement, et tout ça, bon. Et je ne me doutais pas d'ailleurs que 43 ans plus tard, j'ai assisté à sa mort dans la chambre juste à côté. Mais encore 10 ans plus tard, donc 53 ans plus tard, ma mère est morte à son tour. Et il a fallu que je vide tout le Capharnaüm que mes parents avaient emmagasiné depuis tout ce temps. Et donc, avec un brocanteur, on passe 3 jours, il achète certaines choses, on va en jeter quelques autres à la décharge, on casse et on brûle certaines choses aussi, et en bas dans le jardin. Et puis, finalement, l'appartement est complètement désert, exactement comme le jour même de l'inauguration de mes 8 ans. Il ne reste plus qu'un sac dans lequel on a mis les dernières babioles, un sac en plastique, et puis on va quitter l'appartement, et le brocanteur met le sac sur son épaule gauche, comme ça, et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe ? La petite musiquette aigrelette se déclenche dans l'appartement. Exactement comme le jour de mes 8 ans. Et on se regarde, lui, il ne comprend pas non plus, et puis j'ai l'idée de lui dire, on ouvre le sac, et effectivement, la petite musiquette était dedans, et il l'avait déclenchée en la mettant sur son épaule. Et évidemment, vous voyez, j'en ai même encore une émotion à le raconter. Est-ce le hasard ? Voilà. De toutes les façons, et c'est là où ça devient intéressant de parler du grand psychanalyste Jung et de sa notion de synchronicité.
Oui, la synchronicité.
C'est que justement, Jung nous montre que, de la même manière que de toute façon, nous ne cessons d'interpréter le monde selon certains canons qui nous ont été inculqués. De toutes les façons, c'est aussi la façon dont nous l'interprétons qui est essentielle. Et ce qui m'a un peu rassuré, c'est que depuis que ce livre est paru, et bon, il a un certain succès, je reçois un courrier très abondant, et plein de gens, et plein de témoignages de gens qui me racontent des histoires de ce genre. Et donc, je me rends compte que tout le monde y croit un peu. Et comme je l'indique d'ailleurs dans le livre, il y a un passage sur l'assistante de Jung qui s'appelle Marie-Louise von France, elle montre une chose que moi j'ai constatée dans ma vie, c'est en général les gens qui sont le plus réfractaires à ce genre de pensée, qui sont le plus touchés par ces choses-là, justement par une sorte de surcompensation psychanalytique. Et quand on gratte un peu, ces gens-là sont souvent un peu psychorigides, ils ne veulent pas l'admettre, mais si on gratte un peu, on se rend compte qu'ils ont quand même accumulé pas mal d'anecdotes de genre eux aussi, et qu'ils finissent par être quand même très superstitieux. Et oui, parce qu'au fond, ça a rapport aussi avec nos petites superstitions. Et Dieu sait que ça, j'ai pu le voir aussi dans le sport, puisque j'étais un sportif professionnel pour commencer. On ne peut pas imaginer, il suffit de regarder ces jours-ci à la télévision, les sportifs, leur rituel, surtout Nadal. Oui. Ils sont complètement ritualisés. Ils sont ultra superstitieux.
Alors, comment fait-on pour que les auspices soient favorables, finalement ? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est question de tout est question d'habileté, de lâcher prise et de désir, c'est des notions que vous utilisez à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ?
Oui, c'est-à-dire que pour moi, la meilleure manière que nous ayons de retrouver en nous cet instinct perdu, ce sens de l'orientation vis-à-vis du destin, vis-à-vis des choses majeures que sont la solitude, la mort, surtout la mort des autres, tout le désarroi... Nous avons perdu, à mon avis, le sens de l'orientation. Dans la nature aussi, nous avons perdu le sens des choses naturelles. J'en veux pour preuve, là je prends le TGV beaucoup ces jours-ci, puisque je fais une tournée de France des libraires. Dans le TGV, il y a des très beaux trajets. Personne ne regarde par la fenêtre. Tout le monde est en train de tapoter sur son ordinateur, et en train d'écouter, de regarder son portable. Personne ne regarde par la fenêtre. La nature devient de plus en plus l'être morte. Nous n'avons plus le temps, d'ailleurs. Et donc, pour moi, la façon que nous aurions de peut-être retrouver ce sens de l'orientation serait de pratiquer ce que les orientaux appellent le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est-à-dire cesser d'utiliser notre volonté d'une manière ultra-volontariste comme on nous l'a appris dans les écoles. Cesser de croire au mérite par l'effort et par la souffrance. Mais bien au contraire, au sens de l'orientation qui nous est donné par le désir et par cette sorte de plaisir qu'on a à communier avec les choses. Et évidemment, c'est une attitude. Et cette attitude, je l'ai rencontrée en sport. Et j'en parle à propos de Federer, parce que lui, par empathie, nous l'a fait ressentir d'une manière étonnante. Pourquoi Federer est aussi fluide, aussi extraordinaire comme joueur? C'est qu'on sent bien qu'il y a des moments où il est dans une sorte de dépersonnalisation intense, où il ne fait plus qu'un avec la balle, avec la raquette, avec l'adversaire. Il ne sait plus très bien où il est, d'ailleurs, parce que je le sais parce que je l'ai entendu dire, qu'il connaît ces moments de transe que les psychologues américains appellent passer dans la zone. Moi, j'ai connu ça en sport aussi. Et au fond, je comparerais cette attitude, ce moment psychologique au fait de se laisser glisser dans une rivière, voilà, dans le courant d'une rivière. C'est glisser dans le désir comme dans le courant d'une rivière. Donc c'est une attitude très différente de celle qu'on nous inculte, l'effort, le mérite par la souffrance. Et donc, voilà, c'est un peu ça dont j'essaye de parler dans ce livre. Et alors aussi, retrouver finalement l'esprit d'enfance. Et j'en veux pour preuve que justement, ce Federer qui nous fait ressentir son plaisir, le plaisir qu'il a à jouer par empathie. C'est pour ça que les gens aiment tellement Federer, parce qu'au fond, et même là, on a vu Roland Garros, tout le monde était désolé qu'il ait perdu contre Tsonga, qui lui, justement, est exactement l'inverse. C'est-à-dire que Tsonga, c'est vraiment le joueur qui est le volontariste en diable. Il est tout l'inverse de Federer. Et j'ai bien vu que la plupart des gens étaient déçus, parce que finalement, Federer, c'est une merveille. Et je l'ai entendu dire une fois en interview, cette chose est très étonnante, que les journalistes n'ont pas remarqué, mais il a dit « Je crois que personne au monde ne s'amuse plus que moi sur un court de tennis. » Et quand c'est un des meilleurs joueurs du monde qui dit ça, il faut écouter, parce que ça veut dire vraiment qu'il a réussi, lui, à conserver cette gratuité ludique de l'enfance jusqu'au cœur de ce monde ultra-consumériste qu'est celui des grands tournois de tennis. Et ça mérite d'être noté.
Bien sûr. Alors vous soulignez donc à plusieurs reprises ce lien très fort entre le physique et le psychique. Il y a un passage très émouvant sur votre ami Gérard. Peut-être pour ceux qui n'ont pas lu le livre, vous pouvez évoquer un petit peu le destin de cet homme.
Vous voulez parler de celui qui avec le Yeking.
Non, c'est pas. Voilà. Enfin, oui. En tout cas, ce mode de vie.
Ah oui, oui, ça, c'est une histoire assez désolante. Oui. Oui, j'ai vécu pendant une douzaine d'années dans l'Aveyron. On avait une maison un peu isolée dans la campagne. Et comme je ne pouvais pas, on restaurait, ma femme et moi, le plus qu'on pouvait, cette maison. Et on avait fait appel à un type dont on savait qu'il était devenu expert dans la restauration des maisons, qui était une sorte de marginal, vous voyez, des années 70, un retour à la terre, comme on dit. Et ce garçon, en fait, était dessinateur industriel à Paris. Et puis, il a emporté par les idées des années 70, il a tout plaqué et il a décidé d'aller vivre à la campagne. Et il a restauré une vieille maison. Bon, et puis là, il a commencé à faire un jardin modèle, un potager absolument extraordinaire, tout ça. Et moi, quand je l'ai rencontré, il n'arrivait plus à joindre les deux bouts, parce que comme il avait deux enfants en plus, donc il fallait qu'il fasse des chantiers chez les autres, comme on dit, faire des chantiers. Et moi, il ne m'a pas fallu très longtemps pour me rendre compte que ce type-là a été malheureux sans le savoir. Parce qu'au fond, il n'arrêtait pas de vanter sa vie merveilleuse, la santé dans laquelle il vivait. Tout était parfait, son potager, tout était écologique, tout était bon. Mais en fait, lui, c'était un titi parisien et il s'ennuyait ferme, mais il ne s'en rendait pas compte. Et c'est d'ailleurs une des thèses de Wilhelm Reich, le fameux psychanalyste sur le cancer, c'est qu'il pense que la plupart du temps, le cancer vient du fait de gens qui sont malheureux sans le savoir.
Il faut lire Mars, je vous interromps, il faut lire Mars de Fritz Zorn.
Oui, par exemple. Enfin,
Fritz Zorn en parle très bien.
Oui, c'est ça, oui. C'est une des théories. Bon, peut-être qu'on se rassure avec cette théorie, parce que c'est peut-être aussi une loterie. Mais néanmoins, j'ai cru remarquer, même dans mon entourage, quand même, qu'on fait souvent le lit de la maladie quand on est malheureux sans le savoir. Et d'autant plus que quand on est malheureux sans le savoir, on ne peut pas lutter contre le malheur, parce qu'on croit être heureux. Comme l'a dit le philosophe Alain, beaucoup de gens se donnent plus de mal pour paraître heureux que pour l'être réellement. Et c'était un peu son cas. Plusieurs fois, je disais, tu sais, de temps en temps, tu devrais retourner à Paris. Parce que lui, au fond, ce qui lui manquait, c'est les bistrots, la camarade dans les bistrots, tout ça, l'émulation parisienne. Et évidemment, ça n'a pas manqué. Au bout d'une dizaine d'années, il a commencé par une dépression nerveuse. Donc il s'est remis, l'hiver d'après, toujours l'hiver évidemment, parce que l'hiver à la campagne, il est souvent dur à passer. Deuxième dépression nerveuse, et puis la troisième année, il a commencé à tousser d'une manière très inquiétante et tout ça. Mais au début, il a voulu soigner uniquement par l'homéopathie et il a voulu soigner aussi avec un chaman bourriate qui lui faisait remonter dans sa généalogie très loin et tout ça. Enfin bon. Et pour finir quand même par une chimiothérapie. Mais un peu tard, quoi. En fait, là, j'ai raconté cette histoire par rapport au yiking, mais il faudra expliquer ce que c'est que le yiking, parce que c'est ce qui est un peu long à expliquer. Parce que pour opposer une autre forme de rationalité que la nôtre occidentale, j'ai parlé de l'ancienne pensée chinoise, qu'on appelle la pensée synthétique, qui culmine avec ce livre qu'on dit être un livre de divination, mais qui n'en est pas un. C'est parce que les Chinois sont très pragmatiques, même les Chinois anciens, pas autant que les Chinois modernes, mais ils étaient quand même très pragmatiques. Et donc, c'est un livre de stratégie existentielle dans lequel il s'agit, quand on veut étudier un événement ou on veut savoir comment se comporter dans la vie, il s'agit d'assembler autour de nous tous les événements concomitants et non pas d'essayer de comprendre la cause et les faits, savoir pourquoi les choses se sont enchaînées d'une certaine façon. Non, il s'agit de savoir tout ce qui se passe en même temps. Et ils ont créé un système de repérage qui est d'une précision étonnante et qui nous permet de savoir mieux nous diriger dans la vie. Et quand on tire le yiking, on peut en tirer des bénéfices extraordinaires. Simplement, le yiking nous montre les opportunités qui nous sont offertes dans la vie et ne pas se tromper. Par exemple, il y a des moments où on veut réagir à une certaine situation. Au contraire, il faut être passif. Et ça, le yiking vous l'explique. Il vous donne une certaine souplesse dans la vie parce qu'il vous montre, par exemple, que d'une certaine façon, généralement, vous réagissez toujours d'une façon qui est désastreuse parce que vous réagissez trop violemment. Alors, lui, il vous tempère. Un des grands thèmes du yiking, c'est la persévérance est avantageuse. Ça, il répète ça tout le temps. Voilà. Et alors, il a fini par ce cancer qui était terrible. Et puis, il a fait une chimiothérapie. Et au bout de 6 mois de chimiothérapie, ça a été beaucoup mieux. Et les médecins ont même parlé de guérison. Et alors, un soir, ils étaient venus dîner chez nous, sa femme et lui, et j'ai tiré le yiking. Et le yiking explique de façon très étonnante qu'il vient de voir la mort en face et que c'était dû à une certaine attitude qu'il avait dans la vie qui était fausse et que maintenant, à partir du moment, ça doit lui servir de leçon et qu'il doit absolument en tirer les conséquences et agir autrement dans la vie. Il est devenu livide hein, quand j'ai lu ce texte du yiking, d'une précision incroyable par rapport à ce qui venait de lui arriver. Et évidemment, ça serait trop facile d'en tirer une morale habituelle et de dire qu'il s'en s'est trouvé guéri. Non, à peu près 6 mois plus tard, il est mort de ce cancer. Donc c'était sans doute une rémission, mais enfin, qui peut savoir. Parce que très très vite, il est retombé dans ce même discours. Comment dire, artificiel, en vantant sa vie naturelle, sa vie écologique et tout ça. Et bon, et finalement, il n'avait de toute façon pas du tout changé d'attitude par rapport à l'existence. Alors, savoir si c'est ça qui fait qu'il en est mort finalement ou non. Mais je trouvais ça intéressant de noter cette obstination qui me semble symbolique de notre façon d'agir en général. Je crois que c'est très très difficile de changer de mentalité. C'est ce qu'on appelle justement le lâcher prise, l'adaptation aux événements tels qu'ils sont. Ça demande une véritable rééducation. Mais moi, dans ce livre, je ne veux pas seulement accumuler des anecdotes personnelles et comment dire, circonstancielles. Je veux dire par là que d'une manière collective, il nous faudrait peut-être changer d'attitude vis-à-vis du monde, vis-à-vis de la nature. Et que pour cela, ça nous demanderait toute une rééducation très complexe, une déconstruction de notre façon de penser. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain. T'as de gens qui prônent un changement radical. Non. Tout ce qui est d'ailleurs, ça c'est un des leitmotifs de la pensée chinoise, du Viking, tout ce qui est radical est forcément dommageable parce que c'est tomber dans le même excès. Il s'agit de ne pas tomber dans les excès et dans la psychorigidité. Donc il s'agit de se déconditionner lentement. Et il me semble, et c'est pour ça que j'en veux beaucoup à la science moderne, que s'il devait exister un véritable CNRS, ce serait un CNRS qui financerait des chercheurs pour essayer de savoir comment déconstruire ce monde dommageable que nous avons construit et dont l'architecture moderne est le symbole le plus terrible. Moi, personnellement, depuis mon enfance, je n'ai pas vu un seul construction architecturale en France qui m'ait plu. Personnellement, je trouve ça absolument... L'architecture, ce qu'il y a de plus désolant. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais en France, c'est absolument épouvantable. Mais moi, je crois... pouvoir l'attribuer à une certaine forme de cartésianisme.
D'accord. Alors, si on parlons de vous un petit peu, comment est-ce que vous travaillez? Parce que vous parlez des références assez amusantes de rituels d'écriture pour certains écrivains. Vous dites que William Blake travaille nu, Maugham travaille en smoking pour essayer de voilà d'être dans les meilleures conditions, dans les conditions les plus favorables. Est-ce que vous avez un rituel pour écrire?
Oui, bien sûr. Je pense que c'est très difficile d'échapper au rituel. C'est-à-dire qu'il faut que je sois, je sois rasé, habillé, que j'ai pris mon petit déjeuner. Mais c'est assez tôt et je commence en général à 7 heures du matin. Et j'essaye d'aller jusqu'à midi à peu près. Mais alors, j'ai le rituel du thé. Je bois beaucoup de thé. J'ai dû changer parce que je prenais du thé de Chine, mais ça a fini par me créer des aigreurs d'estomac. Donc j'ai trouvé un truc formidable qui est le rooibos, qui est un thé déthéiné qui me permet d'en boire beaucoup. Et qui me soutient. Mais il y a aussi mon chat, hein, parce que j'ai le chat de l'écrivain qui vient s'enrouler presque autour de l'ordinateur, enfin tout à côté, qui de temps en temps d'ailleurs veut s'allonger sur l'ordinateur. Et les chats sont très ritualisés aussi, et ça c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Et de toutes les façons, comme on m'a beaucoup interrogé à ce propos, c'est déjà... Oui, il y a un spécialiste du yoga en France qui a écrit un livre qui s'appelle le yoga du chat. Elle explique que si déjà dans sa vie, on observe très précisément où on se conforme au désir d'un chat pendant un quart d'heure chaque jour, on l'observe bien, déjà c'est une forme de yoga. C'est-à-dire déjà on lasse prise un petit peu. D'accord. C'est vrai que les chats sont étonnants. Les chats maîtrisent le temps d'une façon incroyable. On a l'impression qu'ils ont cette faculté inouïe de vivre le présent... avec une adaptation totale. Ce qui a amené d'ailleurs un penseur et poète allemand que j'aime beaucoup, qui est Lichtenberg, dans ce livre publié chez Corti, qui s'appelle Le miroir de l'âme. Il explique qu'en fait, les animaux ne se trompent jamais, du moins les plus intelligents d'entre eux. Ils sont toujours adaptés, ils ne font pas d'erreurs. Et au fond, les chats, qui sont particulièrement esthétiques, particulièrement étonnants, il suffit de voir un chat... endormi, si une balle passe à sa portée ou un insecte ou une feuille morte poussée par le vent, il va jaillir d'une manière foudroyante. C'est-à-dire à la fois, il est en léthargie et en même temps complètement adapté au monde. Et finalement, ce qu'il y a de plus essentiel, c'est d'ailleurs le jeu. Parce que ça, c'est aussi un des thèmes du livre. Pour moi, une des manières, pour ça que j'ai parlé de la gratuité ludique, une des manières de lâcher prise et de retrouver le sens de l'être profond qui nous mène, c'est aussi le jeu. Voilà. Et donc, je recommande à tout le monde un livre extraordinaire que je cite, qui s'appelle Homo Ludens, de Johann Huizinga, essai sur la fonction sociale du jeu, où il montre que, finalement, ce qui rassemble tous les êtres vivants sur la planète, c'est la notion de jeu. et que, évidemment, c'est une critique du monde ultra-utilitariste qui est le nôtre, qui élimine le jeu. Et j'en veux pour preuve que moi, j'étais horriblement déçu, justement, par la vie professionnelle de joueur de tennis, puisque je me suis aperçu très, très vite que le jeu en était complètement absent. Il s'agissait d'ailleurs pas du tout de jouer, il s'agissait d'être au fond une espèce de robot industriel qui nous... D'ailleurs, un entraîneur, s'il voit que vous amusez trop sur un court, il vous met un index. Il vous explique qu'il ne s'agit pas de s'amuser, il s'agit de gagner. Il s'agit de... Oui, voilà.
Et pour revenir un peu à l'écriture, je crois que vous utilisez beaucoup les carnets. Ah, votre oui. père faisait cela aussi. Donc, c'est une pratique familiale,
c'est... Ah, oui, ça c'est vrai.
D'où ça vient ?
Bon, il faut dire que moi, je vis beaucoup en relation avec mon père. C'est une vraie filiation. Mon père était artiste, très lettré, à tel point que... J'ai souvent l'impression, je me demande si c'est moi qui est en train de vivre la chose ou si c'est mon père. Il y a une espèce de transfusion comme ça, de filiation très forte entre mon père et moi. Et à tel point même que pendant très longtemps, j'ai réutilisé sa vieille raquette que je trouvais très très bien et que j'avais l'impression, quand je réussissais un très beau revers croisé pour monter à la volée, que la raquette m'approuvait, que c'était lui finalement à travers sa raquette qui m'approuvait. Oui, c'est des sortes de fantasmes comme ça, mais oui, mais c'est... Et mon père tenait des carnets, et finalement j'ai commencé très tôt, à l'âge de 14 ans, à tenir des carnets, et tout ce que j'écris est tiré de mes carnets, c'est une pratique quotidienne. Il s'agit de noter tout ce qui me semble être possiblement notable, les impressions, les émotions, les lectures, et maintenant tous mes livres, je les tire, les éditeurs le savent, donc ils viennent me voir, est-ce que dans tes carnets, tu aurais pas... j'en ai 182, est-ce que tu n'aurais pas ce thème à développer. Et j'adore écrire. Parce
et vous
que
vous y retrouvez dans ces 180 carnets?
Oui, alors voilà, j'ai une sorte d'hypermnésie par rapport à mes carnets. C'est une sorte de seconde mémoire. Par contre, j'ai une mémoire extrêmement précise du texte qui correspond au thème. Je sais très très bien dans quel carnet et à peu près à quelle page. Je mets assez peu de temps à la retrouver. Bon, c'est noté quand même de façon chronologique. Donc, je sais à peu près à quelle date. Je le retrouve très très vite. Ça, je suis un peu hypermnésique à ce niveau. Et donc, je collationne tous les textes qui peuvent entrer dans le thème, par exemple pour ce livre-là. Et c'est très plaisant de faire ça, parce que au fond, c'est souvent des notations un peu télégraphiques. Mais ça, c'est très proustien. C'est la fameuse Madeleine de Proust. Quand votre œil rencontre la notation, même télégraphique, que vous avez apposée, mettons 20 ans avant... C'est un peu comme ces fleurs de papier japonaises qu'on laisse tomber dans un verre d'eau et qui s'y déploient. Et d'un seul coup, le souvenir se rouvre. Et vous voyez les choses. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça. D'un seul coup, cette notation, c'est comme un sésame. Et il y a tout un film qui se déroule devant sur mon écran intérieur, sur mon écran mental intérieur. Et je n'ai plus qu'à décrire les choses que je vois. C'est comme ça que j'écris. C'est pour ça que j'ai jamais le problème de page blanche, moi. Alors jamais connu. Et je me fais mon cinéma. Et donc j'adore ça parce que c'est au fond une certaine manière de me remémorer et de revivre les choses par la remémoration et essayer de les transcrire par écrit.
Donc vous êtes un écrivain, vous êtes aussi un grand lecteur. Oui. Vous êtes un passeur finalement. Comment est-ce que cette caractérisation vous convient?
Ah oui, j'en suis même fier. C'est-à-dire, beaucoup de libraires m'ont dit vous nous avez fait vendre énormément d'un tel ou d'un tel. Pour moi, c'est une grande fierté. J'essaye de dans un monde de où il y a de pléthore consumériste comme le nôtre, où il y a un renouvellement permanent d'écrivains souvent quand même un peu médiocres ou un peu névrotiques, alors qu'il y a tant d'écrivains du passé qui sont prodigieux, qui seraient à redécouvrir, mais on est pris par une sorte de snobisme médiatique qui fait qu'on veut du nouveau, toujours du nouveau, et on laisse pourrir et être tombé dans l'oubli des écrivains prodigieux. Par exemple, j'en donne un quand même, c'est à mon avis un des meilleurs romanciers français, il s'appelle Paul Gaden. Et c'est incroyable qu'on puisse lire à une époque, on va lire, oui, peut-être, mais je parle pas même des grands romans populaires, mais certains qui se croient de grands écrivains, plutôt que de lire Paul Gaden, qui est prodigieux. Mais à son époque, lui-même, il a été occulté par d'autres. Et donc, de toutes les façons, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a toujours eu deux littératures. On en parlait à l'instant. Il y a une littérature qui réellement donne à vivre, qui nous raccorde à l'essentiel, et puis une littérature, disons, que je dirais décorative. Malheureusement, on n'a plus trop dans le décoratif à notre époque. Et voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire redécouvrir tous ces écrivains du temps passé qui méritent de l'être. Alors, même à l'époque où c'était des gens comme Sartre ou Malraux qui tenaient le haut du pavé, il faut savoir qu'il y avait des gens comme Paul Gaden, qu'il y avait des gens comme Valérie Larbaud, des gens comme Léon-Paul Farc, des gens comme Georges Limbourg, et plein d'autres que j'oublie. Un critique prodigieux littéraire comme Charles Dubos, il faut lire Charles Dubos, le journal de Charles Dubos, c'est absolument un prodigieux. Et voilà, quel dommage de se priver de ça, au nom de quelque chose qui nous... une sorte de nivellement par le bas, tel que ça se produit actuellement. Bon, ça, c'est mon petit laïus. Mais oui, non, je suis très fier d'être un passeur. Entre autres, celui que j'ai contribué à faire connaître de nouveau. Alors là, je le considère comme le plus grand, et les gens qui le lisent le savent, comme le plus grand romancier, un des plus grands romanciers du XXe siècle, c'est Frédéric Procoche. Il est mort dans les années 60, en France d'ailleurs. C'est un écrivain américain d'origine hongroise qui est absolument prodigieux. C'est lui qui a créé cette dimension littéraire qui s'appelle je me souviens plus du terme.
Je ne pourrais pas vous aider.
Réalisme magique, oui, c'est ça.
D'accord.
Et Garcia Marquez a dit qu'il n'aurait jamais pu écrire s'il n'avait pas lu Frédéric Procoche, par exemple.
D'accord. Vous êtes un passionné. Alors, c'est vrai que le texte regorge donc d'anecdotes, hein, vous l'avez dit, d'analyses, de citations. Et finalement, la structure, elle est un petit peu... on a l'impression que vous laissez guider un petit peu par au gré du vent, par des associations d'idées, par des choses comme ça. Vous dites même à un moment, ce texte ne fait que me mener par le bout du nez. Finalement, c'est une exploration un peu hasardeuse. C'était voulu aussi, cette structure
oui, bien sûr,
parallèle
Oui, bien sûr. D'ailleurs, au thème abordé, je peux lire un petit passage qui est très court, mais qui donne bien le ton du livre. C'est tiré de... Alors voilà, encore un grand écrivain, mais enfin, ça, je pense que tout le monde le connaît, c'est Sebald. Dernièrement, j'étais quand même dans il y avait un dîner organisé dans un salon littéraire. On était 10 écrivains à table et l'un d'entre eux a eu l'idée de faire un sorte de petit référendum en disant « Quel est pour vous le plus grand écrivain des 30 dernières années en Europe ?» Et c'est Sebald qui est arrivé à l'unanimité. Et d'ailleurs, à juste titre, c'est vraiment le plus grand écrivain de notre époque. Malheureusement, il est mort, comme vous le savez, il y a une dizaine d'années, dans un accident de voiture. Et il a écrit peu, mais le peu qu'il a écrit, c'est absolument prodigieux. C'est-à-dire qu'il est de la taille des plus grands, de Proust, Joyce, Musil. Voilà, c'est... Et alors, voilà ce qu'il dit à un moment, quand on l'interroge. Il était professeur. Et voilà. Au cours de l'interview, il se dit « Personnellement, je n'ai jamais aimé faire les choses de façon systématique. Pas même ma recherche pour le doctorat, qui n'a jamais été conduite dans le respect des critères de rigueur attendus. » Je me suis toujours laissé guider par le hasard. Et plus j'avançais, plus j'avais le sentiment qu'en réalité, c'est la seule façon de trouver quoi que ce soit. Je dirais que c'est un peu comme un chien qui court dans un champ. Regardez un chien qui obéit à son flair. La façon dont il traverse un bout de terrain est absolument imprévisible. Mais invariablement, il trouve ce qu'il cherche. Je crois que comme j'ai toujours eu des chiens, ce sont eux qui m'ont appris à fonctionner de cette façon. Et alors, je le mets en exergue d'un autre texte. Et c'est ça que j'aime bien, j'aime beaucoup ces sortes de conflagration finalement à travers le temps. Il se trouve que 4 siècles plus tôt, un grand érudit qui s'appelle Robert Burton, qui a écrit un livre qui s'appelle L'anatomie de la mélancolie, publié en 1621, a dit une chose qui est incroyablement similaire. Donc je cite « Bien que ma profession soit la théologie, j'ai toujours été emporté par le tourbillon de mon génie, pour emprunter à Scaliger, c'était un auteur très venu du temps, et du fait d'un jugement impatient, d'un esprit inconstant et volage, j'ai toujours désiré toucher à tout, car je savais que je ne pouvais avoir plus qu'un talent superficiel dans chaque domaine. à savoir quelque chose dans tout, mais peu dans un domaine particulier. Ce qui est le conseil de Platon, lequel est approuvé par Lipse, qui le développe encore davantage. Car, citation, « il faudrait convaincre tous les esprits curieux qu'il ne faut pas être esclave d'une seule science ou ne traiter qu'un seul sujet, comme le font la plupart des gens, mais papillonner un peu partout, garçon ou sans talent, avoir une rame dans toutes les barques, goûter à tous les plats et boire à toutes les coupes. » Ce qui, nous dit Montaigne, fut pratiqué avec succès par son érudit compatriote Adrien Turnebe et par Aristote. Cette humeur vagabonde, je l'ai toujours eue, quoique avec moins de succès. Et comme un épagneul capricieux qui abandonne sa proie pour aboyer à chaque oiseau qu'il aperçoit, j'ai tout poursuivi, à l'exception de ce que j'aurais dû étudier. Voilà, donc effectivement, ça c'est une définition de ma méthode aussi. J'essaie de me glisser dans cette tradition, qui à mon avis, justement, comme je ne crois pas réellement au hasard, est peut-être une manière beaucoup plus sûre de toucher ce à quoi on cherche, ce qu'on cherche à atteindre. Voilà. Toujours, au fond, cette idée que la logique cartésienne nous mène là où on n'a pas envie d'aller, d'une certaine façon. Voilà.
D'accord.
Donc, cette manière que j'ai de faire, ce livre est désordonné. Comme je dis, c'est un bric-à-brac, mais avec un fil rouge. Et il me semble que ce fil rouge... enfin, moi, j'ai eu l'impression qu'il allait me mener plus facilement au but que de tenir un discours universitaire, comme on peut le voir d'ailleurs, parce que j'arrête pas de sauter du coq à l'âne.
On sent en tout cas le plaisir que vous prenez à nous raconter, nous raconter toutes ces anecdotes et à nous faire partager, nous faire passer tous ces grands textes. Après, au niveau de l'écriture, on sent qu'il y a un réel travail qui a été fait. Je crois, sans me tromper, que vous aimez beaucoup Proust. Hein. On sent l'influence proustienne dans les phrases qui sont longues. J'imagine qu'il y a eu un travail quand même assez conséquent au niveau de l'écriture.
Oui, je travaille beaucoup. C'est-à-dire que je fais partie d'une famille d'artisans. Mes deux grands-pères et mon père étaient des artisans. Et j'ai un plaisir artisanal à travailler la langue, justement pour que ça paraisse fluide. Au fond, parce que ça, je l'avais découvert, c'est les auteurs qui paraissent les plus faciles sont ceux qui ont le plus travaillé. Blaise Cendrars, par exemple, qui est un auteur que j'aime énormément, on a l'impression vraiment que c'est un geste spontané. En fait, non, il travaillait énormément. C'est un des paradoxes. L'inspiration vient facilement, mais ensuite la phrase elle-même, elle doit être travaillée parce que c'est extrêmement rare qu'on... Et curieusement d'ailleurs, les gens qui parlent comme des livres, ce qui arrive souvent, sont souvent un peu trop superficiels. C'est une chose assez intéressante à remarquer, cette sorte de... Comment on appelle, ce paradoxe, quoi. Oui, moi j'ai grand plaisir à travailler la phrase. Mes modèles, non seulement Proust, mais aussi les gens à phrases longues, hein, puisque on m'a souvent demandé pourquoi je faisais des phrases longues et pas des phrases courtes. Et c'est pour ça aussi que ça exprime le divorce avec la littérature moderne, puisque dès le moment où un livre est écrit en phrases courtes, c'est-à-dire l'école que j'appelle du sujet-verbe-complément, comme c'est un peu le cas maintenant, je ne peux pas le lire, moi, personnellement, parce que ça me ramène à cette espèce de nervosité de l'époque, à cette espèce de stress permanent où il faut aller tout de suite droit au but. On n'a pas le droit de folâtrer, on n'a pas le droit de batifoler, on n'a pas le droit de s'égarer. Moi, si je vais me promener à la campagne, inévitablement, je me perds. Et aussi, d'ailleurs, dans mes discours. Donc, je veux dire, j'aime me perdre. Donc, et curieusement, une phrase merveilleuse qui m'a été dite... cette année, je donne un cours de littérature à Sciences Po à Paris et je leur avais donné un texte qu'ils avaient du mal à saisir parce que justement, ce n'était pas une pensée linéaire. Et tous essayaient de l'expliquer, de l'interpréter à tout prix, justement, avec cette idée très logique, avec cet esprit très logique qui est le nôtre, d'une façon générale. Et puis, il y a une des jeunes filles qui a dit, oh, moi, de toute façon, j'adore ne pas comprendre. Et je lui dis, ah oui, voilà, c'est ça. Bah, vous avez tout compris, au contraire. C'est exactement ça. C'est pour avoir un esprit poétique et philosophique au sens où je le prône, il faut aimer ne pas comprendre, du moins dans un premier temps. Ou alors une sorte de compréhension qui vient, disons, avec des antennes, mais non pas avec cette terrible carcan de la cause et de l'effet qui nous est inculqué dès l'enfance et auquel nous sommes sevrés à ça très tôt. Voilà. C'est un peu, j'essaie de faire cette défense tout au long du livre, en accumulant tous les exemples par rapport à ça. Et, alors, au bout du compte, ce livre est surtout une défense, de, je l'ai dit, de l'esprit poétique.
Oui. Flâner.
La flânerie, l'esprit poétique.
Se connaître soi-même aussi.
Bien sûr. Et alors ça, se connaître soi-même, là, il y a tout un chapitre par rapport à la psychanalyse, comme vous l'avez vu, parce que ce livre traite de beaucoup de choses qui me semblent reliées. Oui, la psychanalyse, parce que le problème, justement, de se connaître soi-même, qui a rapport avec la psychanalyse, c'est il a été pointé par un psychanalyste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Christian... je ne me souviens plus de son nom, d'un seul coup, j'ai un trou. David... enfin, je le retrouverai. C'est un vieux de la vieille, de la psychanalyse. Et lui, il parle du danger de la surinterprétation en psychanalyse. Mmh. Et ça, me semble être le grand danger. Je dirais qu'il y a à peu près... En plus, je fais partie d'une famille de psychanalystes aussi, donc, par ma femme. Je dirais qu'il y a à peu près 70% de psychanalystes qui tombent dans l'écueil de la surinterprétation, du délire d'interprétation. Parce que justement, il ne laisse pas assez la place... comme l'explique ce psychanalyste dont je vais retrouver le nom, à la partie nocturne de nous-mêmes. Ils veulent trop, justement, rationaliser même nos rêves. C'est un grand danger de rationaliser les rêves, parce que les rêves servent, à mon sens, à nous régénérer profondément avec ce noyau dur. Non, je ne devrais pas dire noyau dur. Vous voyez, je me suis laissé piéger par le langage, c'est facile. Non, précisément, avec ce brouillard, finalement, régénérant, qui est le nôtre en profondeur et qui ne doit pas justement être trop circonscrit pour qu'on puisse se régénérer. Et par exemple, une pratique que je trouve extrêmement dangereuse, c'est de noter ses rêves au réveil. Ça, je trouve ça très très dangereux, parce que petit à petit, vous allez conformer vos rêves aux besoins que vous avez de les écrire le lendemain matin. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est des cloisons étanches. Quand vous commencez à écrire vos rêves le matin en les rationalisant finalement à travers le langage, vous allez aussi les conformer petit à petit dans votre inconscient va se conformer à ça. Mmh. Et donc c'est un des grands dangers qui est pointé. Alors ce délire d'interprétation, il a été d'ailleurs pointé par un psychiatre qui s'appelle Klaus Conrad, et c'est une affection qui s'appelle l'apophénie. L'apophénie, c'est, on connaît tous les gens qui sont férus d'occultisme ou d'ésotérisme. Voilà, tout a rapport avec tout. C'est-à-dire, alors je cite plein d'exemples assez drôles dans mon livre à ce propos. Comment ça a été extrêmement bien brocardé justement par Umberto Eco dans un petit texte où il explique comment finalement on en arrive à croire que tout... Comment on force les interprétations. Et oui, c'est ça. Moi, j'ai un ami qui fait une psychanalyse depuis très longtemps. Et, il est tout le temps en train de voir des rapports secrets, mystérieux entre les choses. Et je vois bien que c'est ultra rationnel ce qu'il raconte. Il n'y a aucun lâcher-prise, justement. Et comme je l'ai dit une fois, à mon avis, tu fais ce qu'on appelle une contre-psychanalyse. C'est-à-dire, ça, c'est le grand danger des contre-psychanalystes. C'est-à-dire que des gens qui sont tombés entre les mains de gens qui veulent absolument les aider d'une manière volontariste et qui, justement, sans le savoir, les enfoncent dans leur névrose. Parce qu'ils avalisent leur mensonge à soi-même. C'est très compliqué, la question. Hein. Parce qu'évidemment, je sais que tous les psychanalystes vont se défendre de ça, mais en réalité... Si déjà ils acceptent d'en discuter, c'est une bonne chose. Parce que justement, comme je le prône beaucoup dans le livre, s'il y a un possible retour à Descartes, qui a été pointé par le grand philosophe Husserl, c'est le doute méthodique. Et je trouve que d'une façon générale, tous les rationalistes, dont les psychanalystes, ne pratiquent pas assez le doute méthodique. C'est un scepticisme de précaution à propos de tout. Où d'ailleurs, l'humour a une part énorme. Et... Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire à ce propos. C'est très, très dangereux de tomber dans l'apophénie. Et il y a une des branches de l'apophénie, c'est des mots savants que j'ai trouvés, mais que je trouve amusants, qui s'appelle la paréidolie. La paréidolie, c'est vous vous promenez sur un chemin le soir au crépuscule, et puis lumière déclinante, et d'un seul coup vous avez l'impression qu'il y a un oiseau de proie qui est là sur le chemin, qui vous fait un peu peur, et puis vous approchez, c'est une branche morte dans le crépuscule qui apparaît. Enfin, tous les mirages. Et là, ça pose la question qui est peut-être finalement la question centrale au niveau philosophique de ce livre, le peu de différence qui existe entre ce que nous désirons apercevoir et ce qui finit par apparaître. Et ça, quand on commence à se pencher là-dessus, ça devient vertigineux. Parce que c'est le problème philosophique majeur, celui de la perception. Qu'est-ce qui fait que nous pensons tel que nous pensons les choses? Qu'est-ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes? Et alors, finalement, c'est une sorte de petite réflexion phénoménologique que je propose. Tout ce que nous pensons, tout ce que nous ressentons, d'où cela vient-il? Alors, il faut remonter les chevaux, il faut faire la généalogie de nos propres pensées, de nos propres perceptions qui s'interpénètrent. Et on s'aperçoit la plupart du temps, et c'est très surprenant, que c'est des sortes de petites cartes postales d'enfance qui sont restées extrêmement prégnantes, sont des sortes d'axiomes de nos intuitifs, mais ça ne repose pas sur grand-chose, tous autant qu'on est. Et précisément, encore plus, les 10 experts et les 10 savants de notre époque qui n'ont pas cette humilité de se dire qu'eux-mêmes aussi, toutes leurs pensées reposent sur des bases extrêmement fragiles. Voilà, c'est ce qu'on appelle les axiomes en mathématiques. Et j'en veux pour preuve qu'il y a extrêmement peu de professeurs de mathématiques qui sont capables de vous expliquer ce que c'est qu'un axiome. Parce qu'ils ne le savent même pas eux-mêmes, en général.
Merci en tout cas pour tous ces éclaircissements. Je vous invite donc à lire ce livre au très joli titre, La puissance discrète du hasard, qui est paru donc chez De Noël. Merci beaucoup, Denis Kozdanovitch.
Merci à vous.